Merci beaucoup pour ces beaux chants, ce qui nous prépare pour le message. Ce que je vais vous présenter ce matin, c'est très simple. Dans un premier temps, c'est une partie d'un PPS. Peut-être que quelques-uns parmi vous l'ont déjà vu. Dans un deuxième temps, c'est-à-dire que le premier, c'est on voit à partir d'un satellite, on voit la Terre. Et dans un deuxième temps, on va regarder le ciel à partir de la Terre. Et par la suite, on va regarder quelques passages des Écritures qui concernent l'œuvre de Dieu dans nos vies. On va tourner, si vous voulez, dans Genèse au chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, on va lire les versets 6 à 8. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le second jour. Alors, si on regarde ici, Dieu fit l'étendue, trois versets qui nous disent, verset 6 nous dit que Dieu fait une étendue, verset 7, Dieu fit l'étendue, et verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Alors, l'étendue publie ou manifeste la grandeur de Dieu. Maintenant, j'aimerais qu'on tourne dans le psaume 19, s'il vous plaît. Psaume 19. Vous avez déjà eu une étude, je crois, sur le psaume 19. Et le psaume 19 nous parle aussi de la création de Dieu. Psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Si vous remarquez, j'ai souligné l'œuvre de ses mains. C'est son travail. Les cieux racontent ou proclament, décrivent la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est manifestée par la vaste étendue, le cosmos, l'œuvre. Quand on regarde tout cela, c'est Dieu qui nous parle. Dieu a écrit une façon, c'est un poème qui nous a écrit là. Nous allons regarder quelques psaumes vitement. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées. L'ouvrage, l'œuvre, le travail. Psaume 33 qui nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et le psaume 115 qui nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors les cieux, le firmament, le soleil, ça témoigne la gloire de Dieu. Et il est glorifié par sa création. Qui de vous n'a jamais dit, « Ah, un beau coucher de soleil! Hein? » Moi, j'ai fait le tour de la Gaspésie peut-être 75 fois dans ma vie, puis surtout quand on passe à Percé, là, je me souviens un matin, à 5h30 le matin, on avait campé là, puis on était avec de la parenté, puis on avait fait le tour, puis on avait couché là. On était dans un trailer tent, puis les autres étaient dans une petite tente dehors, à 5h30 le matin, ce qu'on entend, « Tout le monde se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une madame qui est arrivée à 3 heures du matin entre deux caisses de quelque chose. Et puis, elle n'avait pas encore dormi. Mais quand elle a vu le soleil qui levait, là, je suis sorti vite. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'arrive dehors. Puis là, je dis, hey, go, go! Puis là, le soleil montait. Puis c'était comme un carré. J'avais jamais vu ça. Puis tout le monde criait. Là, hey, c'est beau. Hey, c'est quoi? Mais ça, c'est la création de Dieu. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous parler, là. Alors, nous pourrions dire que La création est le poème de Dieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un spectacle à partir d'un satellite en orbite, photo prise lors d'une journée sans nuages. Alors, vous allez voir que la nuit tombe sur la Terre, et si l'on regarde à Paris, les lumières sont déjà allumées, tandis qu'à Londres, le soleil est encore là. Alors, on va voir à travers ce satellite, pour ceux qui l'ont déjà vu, vous allez voir que, tranquillement, l'ombre embarque sur la Terre. À un moment donné, il fait noir, mais comme nous, hier soir, il commence à faire noir vers 9 heures, mais rendu au Manitoba, il fait encore clair. En attendant encore une heure, il va faire noir là. Mais ça se démarque. Vous allez voir sur la photo, vous voyez la démarcation. Si vous voyez la démarcation, ici, il fait noir. Ici, il fait noir, mais ici, il fait encore clair. Alors, en Angleterre, en Espagne, il fait encore clair, mais à Paris, il commence à faire noir. À partir d'un satellite, quand on regarde ça, ça devient assez impressionnant. Une photo suivante est la nuit qui tombe au Brésil. Puis la deuxième, c'est la même photo, mais avec les lumières. Alors, vous avez la photo, le même scénario qui se passe ici, la nuit qui tombe, et vous allez voir ici la lumière, puis là, ça avance de plus en plus, puis quand on est en noirceur, bien là, on voit les lumières qui sont allumées. Les deux photos suivantes, c'est sur l'Amérique du Nord. Là, vous allez peut-être vous situer plus. Quand on parle d'Amérique du Nord, on parle de Mexique, des États-Unis et le Canada. Alors, vous vous situez plus facilement ici. Vous voyez le Mexique ici, pas le Mexique, vous voyez la Floride, le Mexique ici, tous les États-Unis, mais vous voyez, il fait noir là, mais rendu ici, il fait encore sombre. Vous allez avoir apparaître les villes qui vont apparaître une après l'autre, qui nous démontrent qu'il fait encore noir à certains endroits, mais à d'autres, il fait encore clair. Il fait encore clair en Californie. Mais ici, on est au Saguenay, on avait du monde du Saguenay ici tantôt. Là. Il fait noir là-bas. C'est intéressant quand on regarde un satellite qui regarde la Terre. On a aussi le sud de la péninsule ibérienne, tempête de sable, les îles Canaries. Vous avez le détroit de Gibraltar, tout vu par en haut, le lac Léman, la mer Noire avec la Russie, Roumanie, Bulgarie, et la mer Rouge aussi qui est vue toujours de ce satellite. Alors, nous avons vu à partir de la Terre, à partir de ce satellite, on regarde la Terre. On l'a regardé à différents endroits sur la planète. Mais maintenant, si nous, en haut, qu'est-ce que ça fait? Quelqu'un a dit un jour, quand Jésus était sur la Terre, le ciel regardait vers la Terre. Maintenant qu'il est au ciel, la terre regarde vers le ciel. Et là, à partir du satellite, on a vu ce qui se passait sur la terre. Maintenant, si on part de la terre et on regarde vers le ciel, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des galaxies. Puis dans une galaxie, vous savez, ça devait être dit, il y a plusieurs planètes, hein? Mais c'est impressionnant. Vous savez que le télescope Hubble, qui était le dernier, le plus récent que nous avons actuellement, qui nous dit qu'on est capable d'aller voir très, très loin, ils pensent qu'ils sont rendus au temps de Noé. Là. Ils prétendent que le prochain, ils vont arriver au Big Bang. En tout cas, on va y laisser aller avec ça. On va y laisser avec ça. Mais nous autres, on regarde vers le ciel. On voit plusieurs planètes, dans plusieurs galaxies. Dans une galaxie, nous autres, nous sommes une petite boule dans la galaxie. Là. Hein, voulez-vous des galaxies? Quand on est ici en bas et qu'on regarde en haut, il y en a des galaxies. Je vous inviterai à tourner dans Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 40. Ahem. Ésaïe, chapitre 40, et on va lire le verset 22. 40, 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. C'est nous autres, les petites sauterelles, qui sautent sur une petite boule à quelque part dans l'univers. On est là, puis on regarde vers le ciel, puis on voit tout. On n'est même pas capable de voir tout. On ne peut pas voir toutes les galaxies qui sont là. C'est impressionnant. Regardez verset 26. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Il n'y a aucune planète, il n'y a aucune galaxie qui s'est frappée encore. » C'est impressionnant de voir comment, n'essayez pas de comprendre comment ça marche. Pour le comprendre, il faudrait être Dieu. Nous autres, on est une petite sauterelle qui saute sur une petite boule quelque part dans l'univers. Alors, nous pouvons dire que la création de Dieu, la création est le poème de Dieu. Alors, lorsque nous regardons la Terre, lorsqu'on regarde les planètes, lorsqu'on regarde les galaxies, on peut voir l'œuvre de Dieu. Et nous croyons en partie que cette œuvre-là décrit le poème de Dieu. Lorsqu'on regarde tout ça, Dieu nous envoie un message. Non un message écrit, mais un message créé, quelque chose qui est là, qui nous... C'est le poème de Dieu, c'est son travail, c'est son œuvre. Et à cause de la création, l'homme devrait reconnaître la grandeur de Dieu. C'est la première chose par laquelle Dieu parle aux hommes, parle aux humains, par la création. La création devrait attirer l'homme à désirer connaître c'est qui ça. Moi, je me souviens d'une histoire qu'un missionnaire avait racontée, disant que quand il est arrivé dans une certaine tribu, ils ont commencé à prêcher l'Évangile, et quelqu'un qui est venu le voir, il dit, « Moi, il n'y a pas tellement longtemps, il dit, j'ai abattu un arbre, puis là, il dit, j'ai pris mes outils, puis je me suis assis sur l'arbre, une jambe chaque côté, puis j'ai commencé à sculpter l'arbre pour en faire une figure. Puis quand j'ai eu terminé de faire la figure, bien, j'ai pris la figure, puis je l'ai mis debout. Puis là, maintenant, je vais lui demander quelque chose. C'est ça, une idole. Bien, c'est en une des sortes, là. Puis là, à un moment donné, il a réalisé, il dit, c'est moi qui l'ai fabriqué, puis maintenant, je vais lui demander quelque chose. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose d'autre. Là, il s'est mis à réfléchir, puis il s'est mis à regarder. Puis là, il a prié. Dans ses mots. Pas longtemps après, ce missionnaire est arrivé. Puis là, il dit, c'est la réponse à ma prière. Il dit, j'ai compris que ce que j'avais fait, couper l'arbre, faire tout ça, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Là, j'ai la réponse. Sur un autre arbre, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Il a compris le message. On va tourner dans l'Épître aux Romains, s'il vous plaît, au chapitre 1er. Épître aux Romains, chapitre 1er. À cause de la création de Dieu, l'homme devrait reconnaître la grandeur de Dieu. Romains, chapitre 1er, on va lire à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand elle les considère dans ses ouvrages. Quand on considère l'ouvrage de Dieu, le poème de Dieu, on reconnaît en effet, les perfections de Dieu, que Dieu est vraiment là. Vous savez, le mot « poème de Dieu », j'ai appelé ce message le « poème de Dieu » parce que le mot « ouvrage » en grec, c'est le mot « poéma ». C'est l'ouvrage de Dieu, le Créateur. Et l'homme n'aura pas d'excuse lorsqu'il arrivera devant Dieu. La nature lui a manifesté la grandeur de Dieu et il l'a ignoré. Puis à cause de ça, il sera inexcusable. Lisez la fin du verset. Ils sont donc inexcusables. Parce que l'homme n'aura pas reconnu la grandeur de Dieu par le poème, par la toute sa création qui nous parle, qui nous envoie un message. Parce que l'homme n'aura pas reconnu cela. À chercher Dieu, il va être inexcusable quand il va arriver devant lui. Il aura bien beau dire, regarde, moi, je ne voulais pas les religions, je ne voulais pas suivre rien, j'ai été déçu par des hommes, Il dira ce qu'il voudra. Quand il va arriver là, c'est toute bouche sera fermée devant l'Éternel. Ils sont donc inexcusables. On sait que le verdict de Dieu est que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et le verset 24 nous dit qu'ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. On sait que gratuit, ça veut dire que ça ne coûte rien, c'est une faveur imméritée, alors que justifié veut dire qu'il n'avait jamais désobéi. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. C'est Dieu nous classe comme si on n'avait jamais désobéi. Et pourtant, on continue encore à désobéir. Mais tout de suite, quand on y confesse, il efface tout de suite. Moi, je me souviens, quand on était jeune, on avait des petits tableaux. À ce temps, c'est plus comme ça, mais ils ont d'autres modèles. On écrivait, puis on levait la feuille, puis ça s'effaçait. Mais quand on fait un péché, c'est comme si on écrirait le péché qu'on a fait. Puis à un moment donné, Seigneur, regarde, je te prie par le sang de Christ, lave-moi ce péché-là. Il lève la feuille, tout est effacé. Qui c'est qu'il y avait d'écrit là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'écrit là. Moi, je m'en rappelle. Mais Dieu ne s'en rappelle pas. Il nous dit dans le livre de Osée qu'il a jeté nos péchés dans le fond de la mer. Après ça, il a mis une pancarte de défense de péché. Il n'a pas mis de pancarte. Alors, nous étions tous captifs à cause de nos péchés. C'est lui qui a payé la dette pour nous autres, qui nous a libérés. Lorsque Jésus-Christ lui-même est allé payer la dette pour nous autres sur la croix. Le salut ne s'acquiert pas par le travail, c'est un don, un cadeau de Dieu qui est accompli pour nous autres. L'Évangile de Jean nous dit que tout est accompli. On n'a rien à accomplir à ce niveau-là. On sait que le péché a travaillé contre nous, mais durant ce temps-là, Dieu a travaillé pour nous. Il a accompli l'œuvre du salut pour nous autres. Alors, la création et sa parole sont là pour nous conduire à Dieu. La création nous manifeste la grandeur de Dieu. Sa parole nous montre que nous sommes coupables devant lui, mais elle nous donne la recette. Elle nous donne le moyen d'être libérés. Et nous devons accepter le verdict de Dieu. C'est là souvent que les gens bloquent au départ ceux qui ont de la difficulté à accepter le verdict de Dieu. Il y en a que ça ne prend pas de temps, il y en a que ça prend longtemps. Moi, ça m'a pris 4 mois avant de comprendre. Il y en a qu'il faut expliquer, ils comprennent vite, mais il faut expliquer longtemps. Ça dépend. Pas tout pareil. Hein? Mais tout cela, c'est là pour nous montrer qui est Dieu. Nous devons accepter le verdict de Dieu. Puis le verdict de Dieu, c'est que nous avons manqué le but pour lequel nous avons été créés. Je rencontre des gens, on a rencontré des gens dans notre vie, hein, puis on leur parle, puis ils ont toutes sortes de bonnes raisons. Hein. Mais en fait, c'est de démontrer qu'ils ont manqué le but pour lequel ils ont été créés. Et je donne l'illustration, puis tu prends un target, puis tu mets un target là-bas, puis on prend des fléchettes, puis on tire un. Hein? Tu veux déjà voir ça? Puis des fois, il y en a qui arrivent à côté du... complètement à côté. Il y en a d'autres qui arrivent dedans. Et à un moment donné, tu es très, très proche. Mais tu n'es pas au milieu. Tu es à côté ou bien à côté, tu as manqué le but. Il n'y a pas personne qui est capable d'en arriver au but. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu payer la dette. Lui, il l'a accompli pour nous autres. Puis il dit, viens, regarde, je te déclare comme un gagnant. Moi, je vais apprendre l'autre partie. À cause que l'homme a manqué le but pour lequel il a été créé, l'homme est devenu en mauvaise relation avec Dieu. Et c'est pourquoi nous rebellons contre Dieu, notre Créateur, et nous transgressons ses lois. Mauvaise relation avec Dieu, mauvaise relation avec nos semblables. Nous cultivons des relations tordues avec Dieu, avec nos semblables. Le monde sont troublés, agités, inquiets. Et c'est cela que le péché amène. Et bien entendu, ça résulte de graves conséquences. Nous devons reconnaître que Jésus a donné sa vie pour nous autres, puis on est justifié par sa grâce. Mais lorsqu'un homme regarde, un homme réalise le verdict de Dieu, il reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il y a une nouvelle vie qui se fait en lui. Ça produit ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ici, j'aimerais poser la question à certaines personnes, est-ce que vous avez reconnu la grandeur de Dieu? Avez-vous reconnu votre état spirituel devant Dieu? Si ce n'est pas encore réglé, bien, c'est le temps de le régler, puisqu'après la mort, il sera trop tard. Après la mort vient le jugement. Il faut remettre le conflit dans les mains du Christ. Et lui confesser nos fautes, dit « Seigneur, viens me sauver. J'ai reconnu par la grandeur de ta création, je reconnais par ta parole que j'ai manqué le but pour lequel j'ai été créé, et je veux mettre ma vie en règle avec toi. » Et c'est avec lui que vous allez faire cette affaire-là, ce n'est pas avec moi et avec quelqu'un d'autre. C'est individuel. Moi, je l'ai fait dans ma chambre, il y en a d'autres qui le font dans mon bureau, d'autres qui font ça dans les chambres, il y en a qui font ça dans l'auto, il y en a qui font ça, entendu quelqu'un en se baignant, il a plongé et il a accepté le Seigneur en dessous. C'est un moment donné, tu réalises, regarde, moi, j'ai manqué le but, puis le Seigneur vient me sauver. Ça se passe en dedans. Mais c'est important d'arriver là. J'imagine que la majorité de vous ici ce matin avez reconnu cela, vous êtes nés de nouveau. Vous avez reconnu que vous étiez des pécheurs perdus, vous vous êtes repentis, vous avez accepté le Seigneur par sa grâce. Et je vous inviterai à tourner dans Éphésiens 2:8, vers des passages que vous connaissez très bien, qui sont utilisés à maintes et maintes reprises, qui ont dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous savez que le salut ne s'acquiert pas par le travail, c'est un don, c'est un cadeau. L'œuvre du salut a été accomplie pour nous, mais le grand travail de notre conversion commence. Quand on accepte le Seigneur, ça ne vient pas de finir, ça commence. Une nouvelle vie commence. Et c'est ce que le verset suivant nous dit. Parce que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et j'ai divisé ce verset en deux. La première partie nous dit, ça c'est le travail de Dieu en nous. Dieu a fait un travail en nous, il a fait de nous, nous sommes son ouvrage, sa création, il nous a donné une nouvelle identité. Et la deuxième partie, c'est le travail que Dieu fait à travers nous. Maintenant que je suis né de nouveau, maintenant que j'ai reçu son esprit, Dieu m'utilise pour faire un travail. Alors, il y a le travail que Dieu fait en nous et le travail que Dieu fait à travers nous. Nous sommes son ouvrage. Le mot « ouvrage » est « poéma ». L'homme est l'ouvrage de Dieu, le Créateur. Pour lui, nous sommes le produit de sa création. Je ne sais pas si vous me voyez venir avec le mot « poéma ». La création, c'est le poème de Dieu. Nous autres, étant son ouvrage, on est sa création. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Qui sommes-nous? Une nouvelle création. Dans les versions secondes, c'est marqué nouvelle créature. Nouvelle en ce qui concerne la forme, en ce qui concerne la substance, mais différente en ce qui concerne ce que nous étions avant. On est différent d'avant, en tout cas. Moi, ça a fait différent. L'apôtre Paul, ça a fait différent. Puis il y en a plusieurs. Il y en a, la différence n'est pas trop marquée, mais la majorité, la différence est bien marquée. Et c'est important qu'elle soit marquée. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la création de Dieu, c'est le cosmos, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le poème de Dieu. Il nous a sauvés par grâce, nous sommes son ouvrage, sa création, son produit, son poème. Lorsque les gens vous voient passer sur la rue, est-ce qu'ils voient en vous le poème de Dieu? Hey, t'as-tu vu le poème de Dieu qui passe? Les gens sont émerveillés devant un coucher de soleil. Est-ce qu'ils sont émerveillés quand ils vous voient passer? Est-ce qu'ils sont bien émerveillés quand ils vous voient au travail? Quand ils vous voient à l'école, ils disent, Hey, c'est merveilleux de voir comment, quelle sorte de vie qu'il est. Est-ce que les gens sont émerveillés? Moi, j'ai réalisé que les gens ne sont pas toujours émerveillés avec moi. Mais écoutez bien. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, ce n'était pas la fin. C'était le commencement. C'est la même chose pour nous autres. Lorsqu'on s'est converti au Seigneur, ce n'était pas la fin. C'est le commencement. Pour ceux qui ont plusieurs années de vie chrétienne, vous le savez bien, on est encore en cheminement, on est encore en formation. Vous êtes en train de construire votre témoignage, votre réputation, et vous serez en construction tout le temps de votre vie. Alors, il faut faire attention, vous pouvez perdre ce témoignage-là que vous avez construit pendant des années, vous pouvez perdre ça en un rien de temps. J'ai réalisé dernièrement que quand on lit dans Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage, que Dieu nous a préparé des œuvres afin qu'on les pratique, mais ces œuvres-là qu'il a pratiquées pour nous autres, il faut que nous, il nous prépare aussi pour les accomplir. Et j'ai réalisé dernièrement que ça fait 30 ans que Dieu est en train de me préparer pour faire un travail. Je viens de le réaliser. Ça fait 30 ans que Dieu travaille dans ma vie. Il m'a fait passer par toutes sortes de choses pour aujourd'hui. Ah, j'ai compris ça cette semaine. Il dit, ah, c'est pour ça que tu m'as fait passer par tout ça, pour que je puisse faire ça. Ça peut durer 10 minutes. Dieu est en dehors du temps. Dieu va travailler tout le temps de notre vie. À un moment donné, il va te servir de nous autres quelques instants. Il y en a qui lisent la Nouvelle ici. Alors moi, je ne suis pas un vendeur de Nouvelle ici. Je ne le lis pas, je ne l'accepte pas chez nous, mais je vais le voir sur Internet. Puis j'ai lu dernièrement le 9 juin. Ça ne fait pas longtemps, ça ne fait pas à peine 3 semaines. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà ils ont vu ça. Vous connaissez M. Tapie? Le vendeur de tapis? Vente de fermeture? Non, Guy Hénère, le directeur de l'entreprise M. Tapie. J'ai fait un résumé, mais je vais vous raconter ça. Vendredi, le 9 juin dernier, les policiers se sont présentés pour visiter un local situé dans la même bâtisse que son commerce. M. Hénère, il y a un gros commerce, puis en arrière, il y a un gros commerce, je ne sais pas, je suis jamais allé là. En tout cas, paraîtrait-il qu'en arrière, il y a des espaces à louer. Bon, il a loué ça, lui, ces espaces-là. Mais là, il a fait venir le nouveliste pour rectifier les faits et surtout blanchir sa réputation. La réputation de son commerce. M. Hénère a souhaité rencontrer le nouveliste parce que là, il disait toutes sortes de choses. Il dit, on avait rapporté qu'il y avait une serre de cannabis chez M. Tapie. L'entrepôt en question avait été loué à des gens qui se disaient entrepreneurs. Aucune porte ne permettait une communication de l'intérieur entre le commerce et l'entrepôt, si bien que les policiers ont même percé un mur pour accéder au local où la serre se trouvait. Ils cherchaient une porte secrète faisant le lien entre le commerce et le local. Ils n'en ont jamais trouvé. Il n'y en avait pas, dit M. Hénère. Il n'y en avait pas. Guy Hénère déplore la mauvaise information et constate le tort irréparable que cette histoire lui cause. Ce qui inquiète désormais, c'est la mauvaise publicité qui a déjà commencé à se faire sentir partout dans la ville. les médias ont rapporté que M. Tapie cachait une usine de cannabis. Il dit, c'était totalement faux. Les appels de clients sont nombreux au commerce. On explique aux gens la réalité, mais les gens ont peur qu'on ferme nos portes. Écoutez bien ça. Ça fait 50 ans que nous sommes en affaires et il n'y aura suffi que d'une seule journée pour scraper ma réputation. Avez-vous compris le message pour ma vie chrétienne? Vous êtes en train de construire votre témoignage, votre réputation. Et on va toujours être en construction. Mais ça prend juste un petit obstacle, puis tu viens tout détruire ce que tu as construit pendant 30 ans. On peut demander au Seigneur qui, du fait que nous sommes son poème, du fait que nous sommes son poème, son ouvrage, que nous puissions le glorifier par nos œuvres, par les œuvres que nous pratiquons, les œuvres qu'il a préparées pour nous autres, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin de les pratiquer. On va prier. Seigneur, on veut te remercier encore ce matin pour ta parole qui est enrichissante. Ça nous fait du bien savoir, Seigneur, que tu nous vois, nous, comme ta création, que tu veux nous utiliser, que tu nous utilises déjà, Seigneur, pour accomplir un travail. Tu n'as pas besoin de nous autres du tout, mais tu le fais. Mais tu as besoin de nous former pour ça. Puis on te prie, Seigneur, de nous aider aussi dans notre vie chrétienne afin qu'on ait un témoignage qui va persister. On n'est pas rendu au but, Seigneur, on le sait. On sait que l'adversaire va nous mener la vie dure en dernier. Mais on te prie, Seigneur, on veut se rendre au but. On implore ta grâce sur chacun de nous et cette grâce, on la réclame au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse. Thank you.